Vous connaissez? Ah, c'est un amateur de western. Mais bon, La Brute et le Truand. Bon, c'est un film de Sergio Leone, hein, comme c'est inscrit, avec donc des acteurs qui sont connus, hollywoodiens. Hein. Bon, ça n'a pas sifflé des balles par-ci par-là, rassurez-vous ce matin. En fait, ce sont les trois personnages principaux qui ont un caractère bien à eux. Hein. Et ces personnages recherchent un magot qui est caché. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais c'est assez intéressant. Hein. Mais ce sont ces caractères qui ressortent de manière assez marquée. Donc, dans notre histoire, nous, ce matin, eh bien, nous avons aussi trois personnages du même calibre. Hein. On a un bon, on a le truand, on a aussi la brute, qu'Abraham va rencontrer. Alors, il y a des noms assez techniques à l'intérieur. J'ai essayé de simplifier le texte biblique pour pas que ça alourdisse la lecture. En tout cas, ce que je vous propose, c'est de voir donc la rencontre d'Abraham avec la brute, puis après avec le bon, et puis après avec le truand. Et puis on dira quelques mots sur Abraham lui-même. Alors, en ouvrant nos Bibles, dans Genèse 12, nous voyons Abraham qui arrive en Canaan. Et suite à son arrivée, très rapidement, eh bien, il y a la famine en Canaan et Abraham va en Égypte. Nous avons déjà l'occasion de parler sur ce thème. Et là, dans Genèse 13, eh bien, Abraham va résider à Hébron. Et quelques temps après, il va se séparer d'avec son neveu Lot à cause de la bénédiction. Des fois, la bénédiction, ça pose des problèmes, hein, quand il y a trop, trop, trop. Et il y avait tellement de troupeaux que les serviteurs de Lot, avec ceux d'Abraham, se sont querellés. Et il y a, voilà, séparation. Et Lot va aller dans un lieu qui n'est pas du tout dans la pensée ou le schéma d'Abraham. Il va à Sodome et Gomorre. Et puis, donc, Genèse 13, alors qu'il mène une paisible vie au milieu des Cananéens, Abraham va dresser sa tente donc au chêne de Mambré, hein, à Montméron, où il y aura la conférence. Vous pourrez aller visiter. Non, pas celui-ci de chêne de Mambré, hein, celui qui est à côté d'Hébron, hein, donc en Israël. Et là, Abraham bâtit un autel. Hein. Ça, c'est intéressant, hein, de voir son attachement spirituel et sa priorité pour Dieu. Alors, tout semble être calme. C'est merveilleux, mais une histoire surprenante va venir le troubler. Et cette histoire, nous la trouvons dans Genèse 14, où nous allons lire ces quelques versets. Si, voilà, merci. Donc, avec des noms. Voilà, pittoresque, hein, s'il y en a qui cherchent des prénoms pour des enfants, il y a de quoi. Hein? Autant Amraphel, est-ce qu'il y a des Amraphel parmi nous, ou des Aïrok, ou des Kedorlaomer, roi d'Élam et de Tidéal, donc les quatre rois. Il arriva que ces rois firent la guerre à d'autres rois, lesquels Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorre, Shibneab, Shéméherber et le roi de Béla. Ces derniers se rassemblèrent leurs troupes dans la vallée de Siddim, que recouvre aujourd'hui la mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient été vassaux de Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, et c'est là où ça va chauffer, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui arrivèrent et les battirent. Alors, on va sauter les peuples voilà, qui vont dominer durant leur razzia, hein, sur cette région. Et on va au verset 6. Voilà. Donc, jusque dans les montagnes de Séir et jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Alors sortirent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, le roi de Béla, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer et ses alliés, quatre rois contre cinq. On continue avec le verset 10 à 12. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers les montagnes. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et Gomorre et toutes leurs provisions, puis s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, les fils du frère d'Abraham, et s'en allèrent, et Lot habitait donc à l'époque à Sodome. Alors c'est peut-être un peu compliqué à la première lecture, hein. On va essayer de débroussailler pour savoir ce qui s'est passé. Eh bien le contexte est le suivant, il y a des rois en Canaan qui étaient assujettis à d'autres rois beaucoup plus en Orient, hein. Et ils ont servi ces rois pendant 12 ans. Et après 12 ans, eh bien, ces villes de Canaan, principalement 5, dont Sodome et Gomorre, se sont révoltées contre leur maître. Ils décident donc ces maîtres-là, 2 ans après, certainement après des pourparlers, des négociations, eh bien, de réprimer la rébellion de tous ces petits royaumes. Bon, on vit un peu la même chose aujourd'hui, hein. L'histoire n'a pas changé, l'homme n'a pas changé. Une expédition donc punitive des alliés donc du Nord, hein, d'Orient, hein, va venir du Nord, elle est rapide et sans appel. Et c'est une victoire éclair des Mésopotamiens. Alors pour avoir juste une idée de ce que ça peut donner sur la carte, hop, je pense que... Hein, donc ils y viennent donc de beaucoup plus au Nord, hein, Nord-Est plus exactement. Ils prennent la route qui va de Damas, descendent sur toute la partie est d'Israël, hein, et puis ils vont jusqu'à très bas, hein, jusque dans le désert et jusqu'à la pointe de la mer Rouge, et après ils remontent. Et chose surprenante, c'est que durant toute cette traversée, eh bien, ils vont faire des prisonniers, acquérir un butin extraordinaire, et ils feront la même chose dans cette région de Sodome et Gomorre, Tsoar, Tamar, hein. Voilà, c'est vraiment assez rapide et très efficace. Alors les choses auraient pu en rester là. Abraham aurait acheté le journal, le Canaan libéré peut-être, je ne sais pas, ou le Canaan enchaîné, je ne sais rien. En tout cas, et puis lire cela dans les faits, voilà, les faits divers ou les faits d'actualité. Mais voici que quelque chose va arriver. Donc là, on va peut-être revenir là-dessus. Voilà. Donc, un rescapé, nous est dit le verset 13, vint annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci demeurait au chêne de Mamré, donc c'est un nom, Mamré, hein. C'était l'Amoréen, fils d'Eshcol, frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham a eu appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses hommes les plus vaillants. Né dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit. Et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Et puis il est dit qu'Abraham ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, c'est-à-dire le neveu de son frère, hein, appelé son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alors ça, c'est pour nous, c'est une lecture qui peut-être nous paraît banale ou du moins connue, hein. Alors, Abraham va faire quelque chose d'assez surprenant. Alors, on a parlé d'une guerre éclair, hein, d'une expédition punitive. À cette nouvelle, Abraham va réagir très vite. Et il va poursuivre donc les assaillants, ces rois venus du nord, sur 250 kilomètres. Ah, c'est quelque chose, hein. Imaginez la fatigue, imaginez le stress, imaginez aussi l'inégalité des forces en présence. Et tout à l'heure, on comprendra que ce Kedor Laomer n'est pas n'importe qui. Donc, il est contraint d'agir. Pourquoi ? Parce que Lot fait partie de ce butin, hein. Averti par un fugitif, il va armer. Alors, il part avec 318 hommes et aussi les hommes de Aner, Eshcol et Mamré, puisqu'il a fait une alliance de paix avec eux. Vous savez que dans une alliance, il y a une contrepartie, hein. Quand l'un est en difficulté, l'autre doit absolument l'aider. Et c'est ces jeux d'alliance qui ont créé des guerres mondiales, hein, comme des jeux de dominos, parce que les pays se sont impliqués directement. Et aujourd'hui, on assiste à, eh bien, à cette question d'alliance qui est remise en question et au goût du jour. Alors la question est, pourquoi ces rois mésopotamiens sont-ils à des centaines de kilomètres de chez eux? Et la réponse est très claire. La réponse est très claire, c'est que Canaan, on va aller juste en arrière, voilà, Canaan est situé entre deux empires. Vous avez au nord-est l'empire babylonien qui est en train de naître et qui veut, voilà, vous savez, c'est comme ces gazoducs, etc. Hein, la route du soie, c'est les routes intéressent les grands et les empires. Hein, et l'autre empire est l'Égypte. Et Canaan, c'est vraiment la porte d'entrée ou de sortie de l'un ou des autres, de l'autre empire. C'est un lieu stratégique. On appelle cette voie, dans l'archéologie, la voie royale. D'ailleurs, on retrouve ce terme dans la Bible. La Bible mentionne des faits réels que l'archéologie découvre, ce qui ne fait que valider le récit biblique. Darby traduit par « chemin du roi » et d'autres traductions comme « synodal » ou « second »,« la route royale ». Vous savez, c'est par cette route-là que Moïse va plus tard solliciter la permission de passer pour aller au pays des Amoréens et pour emprunter cette route, et ça lui sera refusé. Hein. Plus tard, eh bien, Salomon favorisera ce passage. Et deuxième siècle après Jésus-Christ, eh bien, ce sont les Romains qui mettront la main sur cette route. En d'autres termes, celui qui contrôle cette route, qui contrôle Canaan, contrôle un commerce très lucratif. Et les rois venus donc de Mésopotamie ont un intérêt économique, afin de ne pas être étouffés, d'ouvrir ces portes. Quand on lit le journal aujourd'hui, on est impressionné de voir que tous les pays du monde on a intérêt à avoir des couloirs commerciaux. Pas de couloirs, étouffement et affaiblissement du pays. Alors, on va rencontrer un personnage qui peut-être ne nous dit rien. Premier abord, c'est Kedor Laomer. Lui, ce n'est pas n'importe qui. Si son nom de Kedor Laomer est peu connu, son autre nom est très connu. Il s'agirait, et je suis d'accord avec commentateurs comme André Neher, etc., d'Amourabi. Alors, qui est Amourabi? Peut-être vous avez entendu parler. Amourabi est le premier roi de la première dynastie de Babylone. C'est quelqu'un qui est en train d'acquérir une puissance internationale au point de créer, de mettre en place le premier empire dans ce monde. Devenu roi de Babylone, il va rapidement éliminer tous ses rivaux et il va s'étendre jusqu'à Achour et qui est Ninive. Alors, je ne sais pas si on a un plan. On revient sur le plan. Hop, ça, on retourne en arrière. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez où se trouve Achour et Ninive et Babylone qui est en bas à côté d'Our. Hein. D'Our, c'est quoi Our? C'est là, oui, c'est la ville d'Abraham. Hein. Il a fait ses études là-bas, il s'est marié là-bas, c'est toute la famille est là-bas. Et donc, vous voyez, ce petit lieu anodin, eh bien, va marquer l'histoire. D'ailleurs, c'est le croissant fertile, hein, c'est le berceau des civilisations. Et ce Kedor Laomer, donc Amourabi, va fonder un empire hein, qui va s'étendre jusque dans le golfe persique, en faisant de Babylone la métropole qui a laissé sa marque dans l'histoire universelle. Alors, Kedor Laomer n'est pas n'importe qui. Conquérant invaincu, il était appelé le roi des rois, hein, il était appelé le dieu des rois. Hein. Donc, évidemment, Kedor Laomer n'est pas quelqu'un qui est sympathique. Hein. Pour dominer le monde, il faut avoir une main de fer et être un peu brut aussi. Hein. Donc, Abraham se retrouve face à une ligue d'empire. Ce n'est pas juste une histoire qui s'est passée. Il a poursuivi des gens dont il a libéré son neveu. Il est mêlé à des événements politiques d'échelle internationale qui le dépassent. En un mot, la victoire d'Abraham sur Kedor Laomer ou Amourabi est tout simplement une mission impossible. Voilà. On n'a rien inventé, hein? Ok. Si tous ces royaumes sont tombés devant ces quatre rois, il est improbable qu'Abraham et ses 318 hommes puissent vaincre ces rois. Improbable. La chance est de 0,5 avec le soleil dans les yeux, avec la foudre contre eux. Hein? Parce que les ennemis face auxquels se trouve Abraham sont redoutables et puissants. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas là quelque part l'histoire d'un point de vue humain? Il y a des choses absolument impossibles que Dieu rend possibles. Parfois dans nos vies, on peut se décourager, hein, et c'était le thème de ce matin, hein, que Jackie a amené, hein, comment est-ce qu'on gère nos découragements, comment est-ce qu'on les vit, hein. Dans ces découragements, il y a des choses qui nous paraissent impossibles. Impossible comme l'histoire du salut. En réalité, cette histoire d'Abraham n'aurait jamais existé si Lot, celui qu'Abraham aimait, n'était pas pris dans ce butin, lui et sa famille. Pourtant, c'est bien Lot qui a choisi de s'installer à Sodome et Gomorre. Abraham aurait pu dire, bah, écoute, hein, il n'a qu'à recevoir ce qu'il a voulu. Hein. En fait, Abraham va agir par amour envers son neveu. Et cette histoire nous fournit vraiment l'illustration du salut de Dieu pour nous. Lot, c'est l'homme dans toute sa splendeur. C'est lui qui a choisi de suivre ses propres voies, ses propres chemins. Il a cherché ses propres intérêts, n'écoutant que les penchants de son cœur plutôt que la promesse de Dieu. En raison de ses choix non conformes à la volonté de Dieu, Lot se retrouve face aux conséquences de son péché. Il y a malheureusement, dans tout choix, il y a un salaire que nous percevons. Plutôt que la paix et la prospérité, donc Lot va se retrouver esclave des rois venus d'Orient et dans la honte, comme Adam et Ève, qui n'ont pas choisi la volonté de Dieu, mais suivant les penchants de leur cœur, ils se sont retrouvés loin de Dieu. Comme Dieu et comme Abraham est intervenu pour sauver Lot, Dieu est intervenu par Jésus pour nous sauver. Ceci est fondamental. Au péril de sa vie, Abraham va aller au secours de son neveu qui est dans les conséquences de son péché. En d'autres termes, mon frère, ma sœur, Lot, c'est nous. Lot, c'est l'homme perdu et fragile dans un monde en perdition. La Bible nous dit que tous sont péchés et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Parce que nous avons suivi notre propre chemin par notre entêtement, nous étions, comme dit Ésaïe, comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait tomber sur Jésus la faute de nous tous. Contrairement à Abraham, Jésus a dû affronter seul les adversaires. Il n'avait pas une légion d'anges autour de lui, il n'avait pas une armée. Il a combattu un adversaire puissant et redoutable, le diable. Un autre adversaire puissant et redoutable, la mort. D'autres adversaires, le péché, pour nous sauver, en prenant sur lui à la croix les conséquences de ce que nous méritons. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Après un combat acharné, Abraham est maintenant loin de ses brutes. Hein, et il va affronter le bon et le truand. Donc ça, c'est la deuxième partie. Abraham, quand Abraham fut revenu, vainqueur de Kedor-Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et on continue. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni une bride de sandales pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, à savoir Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Alors voilà à Abraham, donc face à deux rois. Le premier, Melchizedek, et le deuxième, le roi de Sodome. Eux, tous les opposent. Hein. Ils ont un point commun, ils sont rois et ils sont voisins. Hein. Donc voilà que ces rois, évidemment, accueillent le vainqueur à bras ouverts. Il a sauvé le peuple et il a ramené le butin. Alors imaginez, c'est fête nationale, hein. Donc, Abraham le victorieux. Et nous voyons d'abord une discussion, un dialogue entre lui et Melchizedek. Alors, Melchizedek, son nom est composé de Melki et de Sedek. Alors, dans l'hébreu, dans les noms, quand vous lisez Melki ou Melek, ça veut dire roi. Par exemple, Abimelek, mon père roi, Ebed-Melek, etc. Donc, ce mot veut dire roi. Et Sedek veut dire justice. Donc en fait, Melchizedek est connu comme le roi de justice. En d'autres termes, un souverain qui est droit, intègre devant Dieu. D'ailleurs, l'historien Joseph nous fait part de ce titre qu'il avait. Et ce qui est surprenant, c'est que le Nouveau Testament aussi donc cite Melchizedek en le qualifiant de ce roi de justice. C'est lui, nous dit Hébreux 7:2, qu'Abraham a donné la dîme de tout. En interprétant son nom, il est d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem. Alors Salem, c'est paix, mais Salem, c'est la ville de Jérusalem. Hein. Salem, c'est la paix, qui aussi à l'époque se rappelait aussi Jébus. Hein. C'est-à-dire, il est le roi de paix. Alors qui est-il? C'est un roi prêtre, un roi sacrificateur. C'est un personnage assez mystérieux. On ne va pas l'étudier aujourd'hui parce qu'il est assez énigmatique. Si on veut découvrir un peu plus, il y a les psaumes qui parlent de lui, il y a Hébreu qui parle de lui. En fait, plus on l'étudie, plus on se perd dans voilà, cette chose assez obscure hein, autour de ce personnage. Hein. Ce sera peut-être l'objet de notre message, Dieu voulant. Mais Melchizedek est surprenant parce qu'il vient avec un message. Quel est son message ? Absolument unique. Il parle au nom du seul Dieu. Alors à l'époque, les monothéistes c'est vraiment la minorité des minorités des minorités. Hein. C'était les originaux, on va dire ça comme ça. Hein. Et son message est le suivant. Quand il voit Abraham, il lui dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livrer les adversaires entre tes mains. Et Abraham donna la dîme de tout. Alors ça, c'est intéressant. Il est bon, mon frère, ma sœur, de nous rappeler que toutes nos victoires spirituelles, tous nos succès, sont d'abord l'œuvre de Dieu. Et souvent, on l'oublie, même dans les milieux chrétiens. Nous pensons peut-être que nos victoires sont l'œuvre de nos stratégies. Non. Elles sont d'abord l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas lui qui a conduit les personnes qui ont croisé nos routes? Lui qui est le maître des circonstances? N'est-ce pas lui qui a souverainement guidé les temps et les moments de nos vies? C'est le Dieu du détail. D'ailleurs, c'est ce que dit le psaume 44. Le psalmiste dit, ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est la droite et c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu leur as été favorable. Dieu a donné la victoire à Abraham parce qu'il était favorable, Abraham. S'il n'y avait pas eu ce fugitif qui est venu prévenir Abraham, il n'y aurait jamais eu cette poursuite. Tout à l'heure, dans une prière, une sœur disait, voilà, cette histoire de la tapisserie, Nous, on ne comprend pas grand-chose, hein? Mais Dieu, lui, mène chaque point à son détail. Même notre naissance n'est pas le fruit du hasard. Peut-être que nos parents ne nous ont pas prévus dans leur plan de vie. Mais Dieu, lui, nous a prévus. Et ça, c'est merveilleux. Et il nous a désirés. Donc, ce n'est pas par hasard que Melchizedek ou Abraham vont se rencontrer. L'homme de bien va le bénir. Abraham face au bon. Mais il lui rappelle quelque chose d'important. Il lui rappelle l'alliance. Ce Dieu qui avait donné une promesse à Ur en Chaldée, c'est ce même Dieu qui lui a accordé la délivrance. Et on a les éléments de l'alliance. Le pain et le vin. La Sainte-Seine, ce matin, nous nous sommes rappelés de l'alliance. Et tout à l'heure, je vous ai dit que l'alliance, quand l'un a un problème, l'autre vient au secours de celui qui a un problème. Dieu n'a jamais de problème. Donc, c'est toujours lui qui vient à notre secours. Hein? Ça, c'est merveilleux. Et Melchizedek partira avec le dixième du butin. Pas parce qu'il a réclamé, parce qu'Abraham le lui a donné. Alors, au verset 17, Melchizedek termine son intervention et il repart. Et c'est Béra, donc Béra, c'est le truand de notre histoire, hein, vous avez compris. Hein? On a parlé de la brute, du bon et du truand maintenant. Hein? Donc, qui est, alors lui, il est très, voire totalement différent et à l'opposé de Melchizedek. Béra va intervenir. Son nom indique son caractère. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a dû dire, mais non, vous allez m'appeler comme ça parce que ça me convient bien. Son nom veut dire fils du mal. Alors, c'est déjà tout là. Hein? Quelle idée de s'appeler comme ça, fils du mal. Hein? Ou alors, qui brille en science. En tout cas, qui met son intelligence à faire le mal, n'est-ce pas? Ce roi, si courageux, hein, rappelez-vous, n'a pas hésité à prendre la fuite quand l'ennemi est venu sur son peuple. Hein? Verset 10, la vallée de Siddim était couverte de puits, et le roi de Sodome, comme celui de Gomorre, s'enfuirent et y tombèrent. Jésus ne nous dit-il pas, le mercenaire qui n'est pas berger, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, et qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne les brebis et il s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. Ah oui. Béra, donc ce truand, a un discours qui est très flatteur. Il dit à Abraham quelque chose pour le manipuler. Donne-moi les âmes. Moi, les biens, ça ne m'intéresse pas, je veux les âmes. Donc, on est quelqu'un qui est intéressé par les âmes, hein? L'ennemi de nos âmes. Hein? En fait, il veut offrir un cadeau à Abraham, mais ce cadeau est empoisonné. Pourquoi? Parce qu'en offrant les biens dont il se fiche, parce qu'il est, voilà, il est dans l'abondance, eh bien, il risque de tenir Abraham en otage. Et Abraham a compris cela. Et il se dégage de son emprise. Il le jure devant Dieu. Je lève la main vers l'Éternel, vers le seul Dieu que moi je connais, que Melchizedek connaît, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil. Hein? Tellement Abraham, voilà. Pourquoi de peur que tu ailles répandre que tu m'as enrichi? Mon frère, ma sœur, si tu te retrouves devant un truand, change de trottoir. Discute pas avec lui. Hein? Parce que, je vous assure, c'est des embrouilles. Vraiment des embrouilles. Hein? Alors, des fois, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, il y a des chrétiens qui disent, ouais, moi, je connais des gars, ils sont peut-être dans des affaires un peu louches, etc. Vous savez, quand on connaît quelqu'un, à un moment donné, il va venir demander un service. Et si on dit non, il va dire, comment? On n'était pas amis tous les deux? Juste un seul service. Hein? Ce qui a conduit un de mes frères dans le Seigneur un jour en prison, parce qu'il a rendu sa vie. Ne fréquente pas le truand, c'est clair. Hein? Abraham, il a compris le piège, n'est-ce pas? Et les choses extraordinaires, c'est qu'il a mis une distance. Il y a des choses qui ne peuvent rien avoir à être en commun avec le péché dans ce monde marqué et enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas fréquenter les gens de ce monde, hein? Abraham a bien fréquenté Mamré, hein, Eshkol et leurs frères. Alors, maintenant, une réflexion. Après avoir vu ces rencontres d'Abraham, moi, je me suis posé la question. Mais ce n'est pas le même Abraham, non, qu'au chapitre précédent. Rappelez-vous de cet Abraham qui va en Égypte, au chapitre 12. Il est tout tremblant, tout petit. Il monte un coup foireux avec sa femme des combines. Tu diras que tu es ma sœur parce qu'on n'est pas tout à fait, etc. Et tout, etc. Tu expliqueras que, afin qu'il ne me tue pas. Hein? Et puis à la fin, vous vous rappelez comment il est parti. Hein? Sans un mot, Pharaon l'a attrapé sur le fait et l'a renvoyé chez lui, sans charter, direct. Hein? Donc, Abraham, les chapitres précédents, c'est pas l'Abraham avec une grande envergure. Si on compare les deux attitudes, eh bien on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé chez Abraham? En fait, on peut dire que Abraham a acquis une véritable maturité. Et il y a des marques qui manifestent cette maturité spirituelle chez nous, assez rapidement. La première de ces marques, manifestation, c'est notre disponibilité à faire ce qui est prioritaire. Si ça veut bien, voilà. Abraham, comme tous les hommes de la Bible, ont un point de base en commun, ils sont disponibles. Tu ne peux pas grandir avec Dieu si tu n'es pas disponible pour lui. C'est simple. On ne peut pas grandir en maturité si nous ne passons pas du temps et si nous n'accordons pas la priorité à Dieu. David, Gédéon, Jérémie, même les apôtres, Jésus leur demande une chose. Tu veux commencer? Suis-moi. Rends-toi disponible. Vous rappelez la parabole des invités, hein? Ils n'étaient pas disponibles, ils étaient occupés à autre chose. Hobgas disait, passer du temps avec Dieu n'est pas juste une bonne idée, c'est vital pour notre maturité spirituelle. Alors nous on s'est dit, je n'ai pas le temps, mais nous disposons tous de 168 heures par semaine. Et la façon dont nous utilisons ce temps dépend de ce que nous estimons important. Et Bob Gass ajoute, si vous pensez qu'il est important de devenir ami de Dieu, commencez par lui accorder du temps. Voulons-nous grandir en maturité? Soyons disponibles pour Dieu. La deuxième des choses, qu'est-ce qui a changé chez Abraham? Eh bien, on peut reconnaître cette maturité en lui qui se manifeste par l'humilité. À aucun moment, Abraham ne s'approprie la victoire. Il aurait pu dire, oui, Dieu m'a aidé, voilà ce que j'ai fait, je le remis, mais non, mais je vous expliquais dans les détails comment ça s'est passé. Hein? Non. Il aurait pu tenter de le faire parce qu'une entrée triomphale de cette envergure, ben, ça flatte quand même. Hein? Il est resté humble. Vous savez, quand on est humble, on sait recevoir le conseil et les encouragements des autres. Abraham sait recevoir les encouragements et la bénédiction d'un frère comme Melchizedek. Comme il a su se garder des paroles flatteuses de Béra. Et aussi, chose incroyable, il a pensé aux autres. Moi, je refuse de toucher à ça, mais les autres, ils ont droit aussi à leur part. Vous voyez, il n'est pas centré sur lui-même. Le humble reconnaît l'autorité de Dieu dans sa vie jusqu'à donner sa dîme. Or, on parle très peu de la dîme dans les églises en général. Les sujets d'argent, c'est des sujets qui fâchent. Hein? En tout cas, moi, ma manière de voir la dîme est la suivante, c'est que la dîme que nous donnons à Dieu traduit notre rapport à l'argent. Oui. Et le pouvoir que nous accordons aux richesses de ce monde. L'humilité est une richesse plus importante que les richesses de ce monde. C'est d'ailleurs Pierre qui dit que la parure cachée du cœur, la parure personnelle inébranlable, inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà ce qui est de grand prix devant Dieu. Et puis, il y a une autre richesse qu'Abraham a acquise dans sa maturité. Hein? C'est la sagesse. Alors, la sagesse, peut-être que nous avons une mauvaise conception de la sagesse. Vous savez, Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui n'a pas un jour demandé la sagesse à Dieu? J'espère que vous l'avez demandé. Hein? Mais vous savez, on est un peu comme... c'est magique. On demande avec foi et on l'obtient. Hein? Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne veut pas dire que Jacques s'est trompé. On a juste oublié un petit détail, c'est que c'est un long processus. demande la sagesse, demande la sagesse, demande la sagesse. Ça veut dire demande de grandir avec Dieu. Abraham, il a su se positionner avec chacun de ces personnages. La sagesse est un long processus qui demande du temps et qui est une marque de la maturité. Et puis un dernier point, c'est la marque de la maturité se manifeste aussi par le fait qu'Abraham est un homme de paix. Ça, c'est important. Le conflit avec Kedor Laomer n'est pas une vengeance d'Abraham. Que ce soit la relation avec Melchizedek, Abraham a cherché la paix. Avec ses voisins, il a cherché la paix, une alliance de paix. Mais pas la paix à n'importe quel prix. C'est pourquoi il s'est gardé du roi de Sodome et Gomorre. Alors, en conclusion, que dire? En fait, Abraham n'est pas devenu un homme parfait. Hein? Par la suite, il commettra des imprudences. Il aura des moments de bas et de haut. Hein? Mais petit à petit, Abraham grandit en maturité. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais le but de Dieu, c'est que tu grandisses petit à petit en maturité. Alors, des questions. D'où vient que beaucoup de chrétiens voient leur vie spirituelle après tant d'années et tant d'années stagner ou ne parviennent pas à une maturité plus importante? Nous ignorons peut-être que cela est possible à Dieu, que c'est dans son plan de nous voir grandir. Sommes-nous de ceux qui écoutent nos propres désirs, hein, ou nous acceptons l'attraction de ce monde? Peut-être que nous ressassons des situations passées qui produisent l'amertume et qui nous empêchent d'avancer dans la maturité. En tout cas, mon frère, ma sœur, cette histoire m'interpelle et me dit qu'une foi vivante doit produire en nous les marques de la maturité. Sinon, notre foi va stagner et va s'étouffer. Oui, le Seigneur nous a sauvés du péché. Il est mort à la croix pour nous. Il nous a accordé le pardon de nos péchés. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Nous avons besoin de vivre dans cette nouveauté de vie que le Seigneur nous propose. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par la mort, dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même aussi que nous marchions en nouveauté de vie. Je prie pour que nous puissions laisser cette année Dieu former en nous ce qu'il veut, nous faire grandir en maturité afin d'être en bénédiction pour la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos églises et pour les autres. Amen.